il suffit de donner la référence et tout le monde fait « Ah oui, oui, c'est vrai ». Tout le monde le connaît, ce pinçage, mais de nom, je pense surtout, et de contenu, très peu. Hein, on connaît de temps en temps quelques versets, quelque chose comme ça. Après, je vous avouerai qu'il est un peu dur à connaître par cœur, si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que si on vous dit psaume 23, là, vous connaissez les paroles par cœur. Si on vous dit psaume 119, oh, c'est chaud, hein. Il y en a qui m'ont dit dans la salle, ah, tu le connaissais par cœur. Non, non, c'est pas moi, c'est ma tante. Moi, je ne l'ai jamais appris par cœur, jamais pu l'apprendre. Voilà, il est long, mais ce n'est pas une excuse. On sait bien tout ce qu'il y a dans les évangiles c'est super long. Et le psaume 119, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Sur la parole, ouais. En général, c'est vrai que c'est ce qu'on retient à peu près. Hein. L'enseignement, la loi, voilà. Bon, c'est bien, il y a un minimum quand même. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées dans ce psaume. Alors, pas dire orgueilleux que j'étais, mais optimiste que j'étais, je me suis dit, je vais faire une prédication sur le psaume 119. Bon, ben en fait, on peut en faire 50 sur le psaume 119, vu la longueur et vu le contenu surtout. Je vous encourage à le lire, on va forcément pas le lire maintenant, mais sinon la prédication est finie. Mais si je vous encourage à le lire, à le relire, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses sur la parole, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fait, en général. Et en fait, il est trop court ce psaume. Il parle de plein de choses, il n'a pas le temps de détailler, il n'a pas le temps d'expliquer. Il est beaucoup trop court. Donc voilà, je pensais aborder le psaume 119 et en fait, après quelques versets, je suis parti sur quelque chose complètement ailleurs. Vous verrez qu'il y a un lien. Après, voilà, moi, des fois, on choisit pas trop ce qu'on dit. Voilà, c'est venu comme ça et c'est tout. Donc, alors, j'aime pas faire les choses normalement non plus. On va pas prendre le début du psaume 119. Je vais le garder pour la fin. Donc, on va commencer au psaume 119 et je vais aller rapidement en fait à l'idée qui m'intéresse. Donc, vous connaissez le verset 105, hein, c'est le plus connu. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je pense que c'est quasiment le seul verset qu'on connaît du psaume. Mais bon, voilà, on en connaît une petite partie. Au début, donc au verset 17 et 18, on lit « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alors, on se dit « David, il est quand même... » Dès le départ, il fait du bien à ton serviteur. Il prie quelque chose pour avoir du bien, finalement. Il ne sert pas Dieu de manière très désintéressée. Il cherche quelque chose, là. Et en fait, il faut vraiment le lire complètement. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Donc, c'est vrai que c'est le thème du psaume 119. C'est observer la parole, la connaître, l'aimer. Il y a des termes très, très forts dans le psaume. Voilà, c'est l'importance de la parole dans la vie de David et en fait dans la vie du chrétien telle qu'elle devrait être. Et donc David, ce qu'il demande, c'est pas de vivre en fait, c'est d'observer la parole pour pouvoir vivre derrière. Il demande pas juste à avoir plein de bonnes choses, il demande à pouvoir observer la parole de Dieu et il sait que c'est comme ça qu'il va vivre et que s'il désobéit, c'est comme ça qu'il meurt. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait demander nous-mêmes. Plutôt que demander à Dieu de nous aider, nous donner plein de bonnes choses, nous aider sur tel et tel plan, on peut lui demander de nous aider à observer sa parole, ça c'est la première chose pour vivre, et à ouvrir les yeux pour qu'on voit les merveilles de sa loi. Alors sa loi c'est en partie la Bible, hein, c'est sûr, c'est ce qu'il nous dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Je suis toujours étonné quand on entend, juste dans la prière de Janet, je me permets, mais les choses qui ressortent comme ça, le point commun entre les deux personnes pour lesquelles on a prié. Il y a des choses comme ça qui sortent et il y a plein de choses qui sortent comme ça de la parole, des comparaisons, des liens, et quand on les voit, on se dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu comme ça. » Et le Seigneur, il y a plein de merveilles cachées. Il faut fouiller, il faut prier qu'il nous les révèle et qu'il nous les montre. Hein, la suite. Et donc là, on va arriver à l'idée qui m'intéresse ici, le verset 19. « Je suis un étranger sur la terre. » Ne me cache pas tes commandements. Alors, en fait, ce qu'on va voir après, c'est dans mes demandes à Dieu, quels sont mes centres d'intérêt. Alors, c'est quoi le rapport centre d'intérêt? Bah, centre d'intérêt et je suis un étranger sur la terre. Donc, quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont les choses où je ne dois pas avoir de centre d'intérêt? Donc, on va préciser ça après à la suite. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que je me considère, on dit nous, mais c'est pour moi aussi, en fait le Seigneur me parle à travers ça, est-ce que je me considère comme un étranger sur cette terre? Bien souvent, non, je pense. Si on est honnête, on se dit, je fais trop partie du monde, en fait, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça, 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 Et finalement, mes centres d'intérêt dans le royaume des cieux, ils sont peut-être plus faibles que mes centres d'intérêt de cette terre. Alors, quel est l'intérêt d'être étranger dans un pays? Enfin, pas quel est l'intérêt, mais qu'est-ce qui fait qu'on est étranger et qu'est-ce qui fait de nous qu'on est différent? Alors, l'étranger, on lui demande souvent de s'intégrer. C'est-à-dire qu'il doit faire globalement comme tout le monde dans le pays, et puis voilà, il se fait pas remarquer. Et un étranger qui s'intègre pas, c'est un étranger qui continue à parler sa propre langue, qui respecte ses propres coutumes, ses règles de vie et qui n'observe pas celles du pays. Et des choses comme ça. Hein. Et Dieu nous demande d'être des étrangers sur la terre, des étrangers qui ne s'intègrent pas, en plus. Il ne nous demande pas de nous intégrer, au contraire. Il veut qu'on ne s'intègre pas. C'est-à-dire qu'on va garder une langue, des coutumes, des choses qui viennent d'ailleurs, de notre royaume, et qu'on sera étrangers sur cette terre. C'est ça qu'il nous demande. Alors, quand on parle d'étrangers, il y a plein de passages qui en parlent dans la Bible, mais j'en ai retenu trois qui sont importants, qu'on connaît quasiment tous, je vais pas dire par cœur, mais presque, pas comme le psaume 119. Le premier, c'est Hébreux 11. Donc, Hébreux 11, les versets 13 à 16. Donc ça, c'est le Hébreux 11, c'est les témoins de la foi. Et on dit d'eux, au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, on cite, en fait, dans ce chapitre-là, on parle d'Abraham, de Daniel, de tout ça, et on dit qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, et qu'ils cherchaient une autre patrie. Et je me suis dit, il y a des gens autour de nous qui se sentent étrangers aussi sur cette terre. Et en général, la solution qu'ils adoptent, c'est de supprimer. C'est dit peut-être un peu brutalement, mais pour beaucoup de gens, quand les gens ne se sentent plus à leur place dans le monde, bah, ils le quittent. Et le moyen le plus simple, c'est de se tuer, de se suicider. Et en fait, nous, on devrait ne pas nous sentir à notre place dans ce monde. Dieu nous dit aussi de mourir à nous-mêmes, mais pas physiquement. Il nous dit la solution, bah, c'est d'accepter d'aller dans un autre monde, un autre royaume, une autre patrie. Il y en a une autre qui est prête, et dans celle-là, on se sentira à l'aise. Et c'est un message qu'on peut apporter aux gens quand les gens ils nous disent, bah, moi, je me sens pas bien, quand on commence à sentir un malaise. On dit, mais en fait, c'est normal ton malaise. T'as rien à faire ici. Ce monde-là, c'est pas le nôtre. C'est pas ce qui était prévu pour nous. Et il y en a un qui est meilleur pour toi. Il y en a un qui t'attend. Et il faut à tout prix qu'on témoigne de l'évangile à ces gens-là, qu'on leur dise c'est tout à fait normal finalement d'être mal dans ce monde. Après ça, qu'il y a des raisons, faut regarder plus loin. Mais on n'a pas notre place dans ce monde et t'as un monde qui t'attend de meilleur. Et c'est ça la solution, c'est pas l'autre solution. L'autre solution n'apporte rien. Et là, ça, c'est celle que nous donne Dieu. Alors que font les... On voit les termes qui sont liés en fait entre étrangers et voyageurs, et on le retrouve dans d'autres passages après. Que font les voyageurs? Alors, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'affaires. Hein. Si tu prends l'avion, ça coûte cher au niveau du poids des valises, tout ça. Donc, tu n'as pas beaucoup d'affaires, le moins possible, pour être prêt à me déplacer là où je dois me déplacer facilement et puis pas traîner 15 valises avec. On en voit des fois, mais ça doit être compliqué pour eux. Est-ce que moi, j'ai beaucoup de choses dans ce monde? Je dis ça, c'est un de mes principaux problèmes. Je veux dire, on en parle des fois avec Maï. J'ai le problème d'être curieux, des fois, on va dire comme ça, et d'être intéressé par plein de trucs. Alors, forcément, ça a trait un peu à l'ordinateur, vous m'excusez. Mais ah, j'aimerais bien apprendre tel langage de programmation, ce serait vachement chouette, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Puis les graphismes, les gens font des trucs super bien, ça pourrait servir pour l'église. Puis tel logiciel, c'est bien, puis tel truc. Puis en fait, il me faudrait une dizaine de vies pour tout apprendre. Et tout ça, ça ne me servira à rien dans le royaume des cieux. Mais ça m'intéresse. Et nous, nos centres d'intérêt, ils sont où? Est-ce qu'on a 15 centres d'intérêt dans le monde et qui font que, au final, ben, il n'y a plus de place pour le Seigneur? Ou est-ce que ben, je limite mes centres d'intérêt parce qu'il faut bien, on a tous un temps limité. On découvre de plus en plus avec les enfants que le temps se réduit comme peau de chagrin. Et voilà, il n'y a pas de la place pour 10 centres d'intérêt. Il faut limiter et puis voilà, choisir. Et notre centre d'intérêt principal, c'est notre patrie, d'où on vient et d'où on va retourner. Donc déjà, il y a un morceau de temps qui part là, obligatoirement. Il ne reste pas grand-chose à côté. Hein. si ma vie est envahie par toutes ces choses-là, je fais rien de ce que me demande Dieu. Je lui obéis pas, en fait, puisqu'il me demande des choses à côté, et moi, je fais ce qui m'intéresse, moi. Et au final, j'ai plus rien d'étranger à ce monde, j'en fais pleinement partie, et je suis au contraire étranger dans le royaume de Dieu. Puisque ce qu'il me demande, ce que lui voudrait, je dis, bah, écoute, Seigneur, c'est gentil, mais moi, j'ai mes centres d'intérêt ici. Et en fait, on devient complètement étranger au royaume de Dieu. Au plus on multiplie les choses ici, au moins on en a de l'autre côté. Et voilà, la balance, au bout d'un moment, elle penche du mauvais côté. Alors, c'est des choses importantes, hein, parce que si je m'occupe de ces choses-là pour mon plaisir, parce que c'est pour mon plaisir, en fait, mes centres d'intérêt, c'est ce qui me fait plaisir à moi, c'est pas ce qui fait plaisir à Dieu la plupart du temps. Lui, la programmation, il s'en fiche un peu. Les graphismes, bon, ça peut lui faire plaisir, mais il fait des choses plus jolies lui-même. Voilà, il y a plein de choses. Ça peut le servir, c'est sûr. Mais globalement, il n'a pas besoin de ça. Et ce qu'il veut, c'est que je lui obéisse avant toute chose. Et si je ne lui obéis pas, est-ce que j'ai été suffisamment touché par le Seigneur pour comprendre l'intérêt de son royaume, pour comprendre ce qu'il me demande? Et on pousse toujours plus loin et on s'aperçoit que finalement, j'en suis où avec le Seigneur, en fait, quand j'examine mes centres d'intérêt. Le voyageur qui sait que son voyage se termine prépare ses affaires. Il fait tout ce qu'il faut pour être prêt à rentrer. Et vous savez, les derniers jours de vacances où on nettoie tout, on range tout, on essaye de tout bourrer dans les valises là pour que tout rentre, parce qu'à l'aller, ça rentrait. Et au retour, c'est toujours plus compliqué. Et voilà, on bourre tout, et on est prêt à partir, et des fois, une petite marge de temps, voilà. Enfin, ceux qui ont du bol, il y a une marge de temps derrière, où on dit, bon, voilà, tout est rangé, il n'y a plus qu'à. Et avec le Seigneur, où j'en suis? Est-ce que je suis prêt? Voilà, il n'y a plus qu'à, Seigneur. J'ai bouclé mes valises, j'ai plus qu'à... Tu me dis, on part, c'est parti. Ou est-ce que, ouh, Seigneur, faut que je règle ça, j'ai pas fini ça, j'ai pas... Oh, bah, je suis pas prêt. Mais imaginez, si le Seigneur revient, vous lui dites, mais je suis pas prêt. Est-ce que vous êtes pressé que le royaume de Dieu vienne? Ça revient à ça, la question, en fait. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses et ce serait bien qu'il laisse un petit peu de marge, en fait? La conclusion de ce passage dans Hébreux, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Si on l'inverse, je pense que ça percute plus dans nos têtes, et on se dit, ceux qui ne désirent pas une meilleure patrie, qui ne se reconnaissent pas comme étrangers et voyageurs, font honte à Dieu. Vous savez, quand on inverse, là, on se dit, il y a quelque chose, Dieu va avoir honte de ceux qui ne désirent pas son royaume, de ceux qui ne s'y intéressent pas. Il prépare tout. Et nous, tout ce qu'on trouve au final, c'est de lui dire, ben, ouais, mais je vais préparer après, j'ai ça. Tu vois, mon temps, il est compliqué, Seigneur, donc ben, j'ai pas beaucoup de choses pour toi. Et on lui dit ça, en fait, c'est ça qu'on lui dit. Et il en pense quoi, le Seigneur, dans tout ça? Forcément qu'il est, il est honteux de nous, il a mal au cœur pour nous, et il y a quelque chose qui va pas là-dedans. C'est pas un comportement de chrétien. Alors, si on est étranger pour le royaume du diable, sur cette terre, c'est que notre pays est ailleurs. On a vu, ils attendaient une autre patrie. Et on peut même dire, en fait, que les citoyens de cette terre sont des étrangers dans le royaume de Dieu. On est citoyen en général que d'un pays. Si je suis citoyen français, je vais pas prendre les anglais parce que du coup, on a des cas qui sont compliqués là-bas. Mais voilà, je suis pas japonais. Si je suis japonais, je suis pas français, je peux... Nous, on a des règles, enfin, on peut adapter les choses, on peut être double nationalité, mais voilà, le royaume des dieux, il n'y a pas double nationalité, il n'y a pas « je suis royaume du diable, je suis royaume de Dieu ». Il n'accepte pas ça, lui. Donc, faut choisir. Si nous, on en fait partie, les autres n'en font pas partie. Et c'est ce que dit Éphésiens 2, verset 19, ça dit « ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, c'est-à-dire que vous l'étiez avant, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu ». Donc ça, je vous dis, on est étrangers, là, ça dit « vous n'êtes plus étrangers ». Oui, mais ça dépend de quel point de vue on se place, en fait. On est étranger pour le royaume ici, pour tout ce qui concerne la terre, et on ne l'est plus pour le royaume de Dieu. Et pour les gens, c'est l'inverse. On le retrouve à peu près la même chose dans Colossiens 1, verset 21. C'est dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Une dernière référence, Éphésiens 4, verset 17 et 18. « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Donc ça, c'est l'encouragement de Paul aux Éphésiens. Vous ne devez plus marcher comme ça. C'est tout à fait valable pour nous. Vous ne devez plus marcher comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils marchent selon leurs pensées, leurs envies, leurs sortes d'intérêts. vous en avez des nouveaux, des centres d'intérêt. Le deuxième grand passage qui parle des étrangers, qu'on connaît aussi quasiment par cœur, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 2, et au verset 11 à 17. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, ouais, on a encore les choses liées, hein, étrangers, voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alors ce passage, il vient encore plus expliquer notre condition de voyageurs et d'étrangers. Vous voyez, on a encore une fois les deux qui sont liés. Et Pierre, il vient nous dire, en fait, notre centre d'intérêt ne doit pas être selon la chair. Je vous le répète depuis le début, je pense que là, c'est acquis. Et il nous dit qu'en plus, on voit un peu cette idée de conflit d'intérêt, en fait. Qu'il y a le comportement selon le royaume, qui va être décrit par les gens de l'autre royaume, mais qui va honorer Dieu et qui va en fait être un témoignage du royaume auquel on appartient. Il dit de ne pas avoir la même conduite que les païens. Et que si les gens nous calomnient comme si on était des malfaiteurs, c'est terrible, hein, l'inversion des règles quand même. On fait des choses bien et les gens vont penser qu'on est malfaiteur et vont dire du mal de ce qu'on fait. C'est ça la différence entre les deux royaumes, c'est complètement inversé. Il y a l'échelle de Dieu, l'échelle des valeurs de Dieu, et il y a l'échelle du monde qui est l'inverse. Au plus vous faites du mal, en fait, au mieux c'est. C'est quasiment ça. Alors ce qui est souligné aussi dans ce passage-là, c'est qu'on a beau être étranger et voyageur, on ne fait pas ce qu'on veut. On est libre, mais on ne doit pas utiliser cette liberté pour couvrir la méchanceté. Et ça nous rappelle bien, ça c'est quelque chose qui est important pour les chrétiens, en fait, c'est qu'on dépend d'un roi, mais on dépend quand même du roi qui est sur terre, du gouverneur, du président, de ce qu'on a mis à la tête du pays. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Ça, c'est quelque chose auquel on se fait presque plaisir. On dit, je suis chrétien, moi, je ne dépends pas des autorités, je dépends de Dieu. Et je vais faire ce que Dieu dit d'abord. Oui, mais il faut faire ça, et ce que Dieu dit, c'est d'obéir aux autorités. Alors, voilà, c'est réglé. Après, il y a des cas particuliers sur plein de choses. Je ne rentre pas dans ces cas où on peut discuter longtemps pour presque pas grand-chose, dans un sens. Mais la règle générale, c'est j'obéis aux autorités parce que Dieu le demande. Voilà, et parce que je lui obéis à lui d'abord. Voilà, ce passage-là n'a pas grand-chose à en dire, en fait, c'est tout à fait clair. Hein. Il y a des passages où il n'y a pas grand-chose à chercher, tout est dit directement sans tourner autour du pot. Le dernier paragraphe que je vais utiliser, c'est dans Jean chapitre 17. Alors, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, donc la prière qu'a fait Jésus avec ses disciples avant d'être crucifié. Jean chapitre 17, et à partir du verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est pareil, je ne vais pas détailler, dire ça, on peut en faire une prédication avec juste ce passage-là. Mais ce qui est important, c'est je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. C'est-à-dire que Jésus n'est plus directement à côté de nous, sous forme de Jésus humain. Il est venu aller auprès du Père, et on connaît la suite, c'est qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour rester avec nous quand même. Et il précise bien, c'est des choses qui sont connues chez les évangéliques, qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. C'est la notion qui est importante à retenir. C'est que je suis au milieu du monde, c'est inévitable. Et Dieu ne nous demande pas de sortir du monde. Il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Ils restent à l'intérieur et ils restent des lumières, des témoins. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Et en fait, ça c'est aussi quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'on est étranger dans le monde, que le monde ne peut pas nous accepter à cause de la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est annoncer au monde qu'il est pécheur et qu'il doit se tourner vers Dieu. Et ça, le monde, il supporte pas, il peut pas. Et du coup, voilà, il y a incompatibilité à cause de ça, à cause de la parole de Dieu. Alors, c'est un peu comme le cas d'une greffe, en fait. C'est une image qui revient aussi, en fait, entre étrangers. Pourquoi est-ce que le corps rejette le greffon? Parce qu'il reconnaît. Quand on greffe une main, un bras, peu importe, il y a des choses qui vont passer dans le corps, et le corps, il voit ça arriver, il dit, mais c'est pas à moi ça, je reconnais pas, je reconnais quelque chose d'étranger dans ce qui arrive là. Et donc, je prends les défenses nécessaires, je prends les mesures nécessaires pour le refouler, pour le bloquer, pour pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'il y a des traitements après pour faire passer les greffes, pour diminuer les défenses, pour essayer d'enrober un peu ce qui vient de l'extérieur et le faire accepter au corps. Il y a des corps qui acceptent plus ou moins après. Mais en fait, ça devrait être comme ça pour nous. C'est l'ordre normal des choses. Quand on est dans le monde nous recrache, nous haït, ne peut pas nous supporter. Et pas parce qu'on est religieux, parce qu'on dit des choses, mais parce qu'on a la parole de Dieu, parce qu'on annonce l'évangile. Il y a quelque chose que le monde ne peut pas prendre dans ça. L'autre image aussi, c'est la lumière. On le voit dans Jean 3. On connaît Jean 3, 16. C'est le verset juste après qui est intéressant. Bon, en fait, on peut lire Jean 3, 16 et verset suivant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et donc, c'est le verset qui m'intéressait ici. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas pu accepter la lumière, ils s'en cachent, ils se protègent, il ne faut absolument pas qu'il y ait de la lumière. Et ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et à nos côtés, des personnes du monde doivent sentir la lumière, doivent sentir leurs péchés et être mal à l'aise et faire que, il y a quelque chose qui repousse et ça ne va pas. Il y a quelque chose qui repousse, pour autant, il faut qu'ils arrivent à accepter le Seigneur. Il ne faut pas qu'ils repoussent et puis on n'en parle plus. Il y a cet effet-là par rapport aux chrétiens, mais il y a quand même l'effet de la lumière qui fait son travail, qui montre. Et si la personne veut bien entamer le travail de nettoyage, alors on peut avancer. Mais c'est toutes ces images pour dire que le comportement normal, c'est qu'on soit haï, qu'on soit rejeté. On ne peut pas être accepté par le monde. Dans une certaine mesure, vous pouvez au travail reconnaître que vous faites bien votre boulot, les gens sont contents, tout ça. Mais quand on en arrive à l'évangile, ça va coincer. C'est obligé avec le monde. Dans Luc 6, versets 22 et 23, Jésus il est encore plus direct. Il dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Ce n'est pas à cause de mon comportement, de ma religiosité, de mes règles de vie, c'est à cause du Fils de l'homme, à cause de Jésus. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Il aurait pu rajouter, c'est ainsi que j'ai été traité, d'ailleurs. Ah, est-ce qu'on en est à ce point-là? Si je regarde ma vie, est-ce que... il y a deux étapes, en fait. Je vais dire, est-ce que je suis heureux d'être rejeté? Mais le problème, c'est qu'il faut déjà être rejeté. Alors, faut pas faire le nécessaire pour être rejeté. Je dis pas allez embêter tout le monde. Voilà, allez rejetez-moi comme ça. Je suis du côté du Seigneur. Mais vous devez être rejeté par votre comportement qui reflète celui du Seigneur. Si c'est vraiment pour ça que vous êtes rejeté, est-ce que vous êtes heureux? Si vous n'êtes pas rejeté, pourquoi? On a eu une étude biblique il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui c'était, et qu'on disait justement, il y avait Daniel qui était là, et qui disait que c'est juste, on a une vie qui est bizarre ici, par chez nous. Et le comportement normal des chrétiens, c'est d'être persécuté. C'est la vie normale du chrétien, en fait. Et on en revient à ces choses-là. Le chrétien, il est étranger, il n'est pas supporté, et on peut pas le garder dans le monde tel quel. Et l'inverse doit être vrai, en fait. J'insiste beaucoup sur le monde qui nous rejette, mais on devrait insister sur nous. On doit rejeter le monde, ça doit être viscéral. Notre constitution fait qu'on ne peut pas accepter la greffe. Et le malin va tenter d'enrober, de diminuer les défenses, de faire que la greffe va passer. Alors les propos j'ai perdu mon passage. Dans Jean 17, il disait « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et là, on boucle tout doucement la boucle. On revient à ce que disait le psaume 119. On parlait de l'importance de la parole et pourquoi ça a dévié sur le terme d'être étranger. Parce que tout est à cause de la parole. Au plus elle aura d'importance dans votre vie, au plus vous allez refléter Jésus, au plus vous allez être étranger et être rejeté, et au plus vous allez rejeter vous-même tout ce qui vient du monde. La parole de Dieu et la vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Donc on revient vraiment à ce que dit David. Dans tout le psaume, vous lisez ces choses de « Ta parole est dans mon cœur, aide-moi à observer ta parole, à la mettre en application, je la désire comme, je ne sais plus, il y a des expressions vraiment qui sont fortes, qui montrent un amour de David pour la parole et on sent le feu dans son cœur pour la parole de Dieu. » Et la question c'est, est-ce que j'en suis à ce point-là? De toute façon, quand on lit la parole, il n'y a que ça à se poser comme question. C'est, est-ce que je reflète ces choses-là? Est-ce que j'en suis là? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? Et on s'aperçoit que tout est radical. Est-ce que je suis radical à ce point-là dans ma vie? Je vous dis ça à vous, je me pose la question à moi. Ces paroles, je les ai reçues pour moi d'abord. Est-ce que je rejette le monde de cette manière radicale? Est-ce que j'aime la parole de cette manière-là, aussi fort que ce que dit David? Tout ce qui gêne le monde, ce n'est pas nécessairement l'histoire d'Israël, la Bible, tout ça, même si le monde s'y attaque, création, évolution. On peut trouver plein de points sur la Bible que le monde va accepter plus ou moins. Mais l'évangile, le Jésus est venu mourir pour tes péchés, parce que tu es pécheur, parce que tu désobéis à Dieu, ça va coincer, ça va forcément coincer. Et donc c'est ça qui doit nous caractériser en fait. Quand on est auprès des gens, c'est ça qui nous l'a caractérisé. On doit leur montrer qu'ils sont pécheurs, pas en les montrant du doigt, ah t'es un pécheur, si vous faites ça à vos collègues. C'est vous faire rejeter très rapidement effectivement, mais à cause de votre comportement, de votre manière de faire, pas de l'évangile directement. Alors c'est pas des choses compliquées, je pense que je vous dis, c'est, il suffit de lire et de constater en fait. Alors on va revenir au psaume 119. Tu sais, j'étais pas parti pour dire ça, en fait, au départ. Je voulais vraiment parler du psaume 119. Et quand je me suis retrouvé embarqué dans ce thème-là, je me suis dit, mais Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, ça m'a travaillé moi-même. Et en fait, à la fin, je suis retombé sur le psaume 119 quand même. Donc, ça fait une boucle, mais c'est des manières de faire un peu bizarres. On va relire donc les premiers versets du psaume 119. Et donc, vous gardez en tête l'aspect être étranger au royaume de ici sur terre, au diable, et de faire partie de la patrie céleste et d'avoir autre chose, une autre citoyenneté. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Et donc, quand il dit heureux, pour moi ça fait écho directement à ce que dit Jésus, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, haïs, outragés. Pourquoi? Parce que vous allez appliquer la parole de Dieu. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. C'est pareil, moi ça me fait revenir à que quand ils vous, c'était les termes tout à l'heure dans 1 Pierre, quand ils diront du mal de vous faussement, en fait, des bonnes actions que vous faites. On est encore là aussi. Verset 7, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre centre d'intérêt que la parole. J'ai tous les trésors dans la parole. « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Quand on le lit comme ça, après avoir parlé du côté étranger, tout ça, on le voit différemment. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à ce comportement ? Bah, la parole. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans le psaume 119. Il n'y a que ça. Il y a plein d'idées, mais ça tourne tout le temps autour de la parole. Et pourquoi ? Bah, parce que c'est le point central de nos vies. Emmanuel nous a parlé la fois dernière de méditer, de rechercher le Seigneur, et la parole, ça fait un tout avec tout ça. Quand vous avez ça, vous avez tout. Il ne manque rien du tout à votre vie avec le Seigneur. Alors, que dit David ? Il faut se diriger d'après la parole de Dieu, en la serrant dans notre cœur, en se laissant enseigner par Dieu, en apprenant sa parole. S'il dit « J'énumère de mes lèvres toutes les sentences de ta bouche », c'est qu'il les connaît. En méditant les ordonnances de Dieu, en n'oubliant pas la parole. Il y a tout un travail à faire là autour de la parole, avec tous ces verbes qui ont des sens légèrement différents. Alors, est-ce que la parole, je vais en arriver avec l'une des dernières questions, est-ce que la parole a cette importance-là dans votre vie ? Quand on parle comme ça, on se dit, on ne peut plus en être au point où, c'est ce que disait Emmanuel la semaine dernière, bon, allez, ce matin, j'ouvre ma parole, allez, ouf, ce chapitre-là, ça va, il est plus court, ça va aller. Ouais, oh là là, il est long, celui-là, il est long. Psaume 119, il est long. On n'en est plus à regarder la longueur. Et pourtant, je pense qu'on est souvent comme ça. On attaque le psaume 119 et on a lu les deux premiers versets. Ah ouais, quand même. Oh là là, ouais. Bon, il me reste encore 12 colonnes à faire de texte. Et on est parti. Et puis, bon, il m'en reste plus qu'une page, allez. Et on est toujours lié à la longueur du psaume 119. C'est terrible, hein. Et pourtant, il y a le contenu qui est là et il faut vraiment réussir à se concentrer sur ça. Et on peut le lire d'une traite, il n'y a pas de problème, c'est pas si long que ça. Voilà, donc est-ce que vous en êtes à ce point-là avec la parole ? Est-ce que j'en suis à ce point-là avec la parole ? Qui fait que je vais me retrouver en complète opposition avec ce qui est dans le monde ? Est-ce que mes centres d'intérêt, ils sont différents ? Ou est-ce que finalement, j'ai plein de centres d'intérêt dans le monde, j'ai très peu d'intérêt à ce que le Seigneur revienne ? Comment est-ce qu'il est mon comportement ? Est-ce qu'il est exemplaire au point qu'on me dénonce ? Parce que trop bien. On devrait en être là. Hein. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est juste par la parole. Si vous relisez le psaume 119, vous essayez d'appliquer tous les versets. Il y en a beaucoup. Hein. Vous essayez d'appliquer tout ça, et c'est comme ça qu'on devient citoyen des cieux et parfait étranger, haï sur terre. Alors Marc 10, verset 28... Je vais terminer avec ça. Pierre se mit à lui dire, donc il parle à Jésus, et il dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ça c'est important, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Il suffit de regarder les gens que j'ai autour de moi. C'est la famille que je reçois de la part du Seigneur. Des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. C'est lié. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est tout ce qu'on a vu juste avant. On est étranger, mais on est citoyen d'une autre patrie. Et quand viendra le moment, on sera accueilli dans notre pays. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est merveilleuse. Des fois, Seigneur, on est tellement borné à lire les choses sous un certain format, sous un certain angle, et tu nous montres qu'il y a autre chose, Seigneur. Et on te prie que tu nous rendes comme David, Seigneur, sur ce point de vue-là, entièrement comme David, à aimer ta parole, à la serrer dans notre cœur, à vouloir nous diriger à partir d'elle, à la désirer de tout notre cœur, à le voir comme notre unique trésor. Seigneur, que nous puissions prendre cette importance, le comprendre. Seigneur, si souvent nous partons dans la vie quotidienne et nous en oublions tout ça, et Seigneur, tu veux que ce soit la première priorité de nos vies. Je te prie que tu nous rendes parfait étrangers ici sur terre, que tu fasses ce travail dans ma vie aussi. Seigneur, de modifier les centres d'intérêt. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être bornés juste à la Bible et rien avoir d'autre dans notre vie. Tu nous laisses des centres d'intérêt, des loisirs, des choses. Mais Seigneur, c'est toi d'abord. C'est toi qui dois avoir toute notre attention et ces choses-là ne doivent pas venir prendre ta place. Aide-nous, Seigneur, à être des étrangers et au contraire des citoyens des cieux. Seigneur, aide-nous à être cette lumière qui éclaire les gens et qui révèle le péché et qui attire les gens à toi ensuite. Seigneur, que nous soyons maltraités à cause de l'Évangile. Seigneur, que nous soyons maltraités parce que nous apportons le salut aux autres. Continue ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Amen.